et c'est l'heure de la chronique des apatrides anonymes, mais je ne voudrais pas voler le punch, mais tout de même, soulignons, aujourd'hui, on a au moins une bonne nouvelle à l'agenda.
Ben oui, le Abou Soufiane Abdelrazik, qui était sur la liste noire de l'ONU, comme étant considéré comme une personne très dangereuse, a été retiré de cette liste, après beaucoup, beaucoup de combats, après des années. Tu disais, on se parlait hors d'onde, que c'était une bonne nouvelle. Oui, c'est une excellente nouvelle, c'est sûr, on est tous d'accord avec ça. Sauf que, comme je disais, il y a plusieurs listes, il y a des listes d'agences privées, de compagnies aériennes, d'agences fédérales, de différents pays. Donc, ces listes-là s'alimentent les unes les autres, se contaminent, si on veut. Donc, son nom reste là, il y a quand même des préjudices à sa réputation aussi. Il reste des interdictions de vol, de séjour aux États-Unis, interdiction d'ouvrir des comptes en banque dans la plupart des pays. Mais quand même, c'est une grande avancée qu'on doit souligner.
Puis est-ce qu'au Canada, il va être en mesure de récupérer une vie entre guillemets normale, là, au sens de pouvoir accéder à un compte en banque, etc.? Est-ce que
oui,
ça va se débloquer
Canada,
au Canada?
Oui, au Canada, oui. Puis il y a beaucoup de choses qui restent en suspens parce qu'il y a une poursuite de 27 millions qui est intentée contre le gouvernement fédéral et qui vise personnellement Lawrence Cannon aussi. Donc ça risque d'être long, mais on a hâte de voir les résultats quand même. On espère qu'ils vont payer. On joue pas avec la vie des gens comme ça. Donc, ça, aujourd'hui, le nom de Jason Kenney risque de revenir à quelques reprises. Il est très présent, très acharné. C'est un bon ministre de l'immigration, je dirais. Il remplit très bien son mandat avec les conservateurs. Avant de parler de lui, je vais vous parler de notre premier ministre, Stephen Harper. Une grande annonce qui va être faite mercredi prochain à la Maison-Blanche, donc rien de moins. Donc, une rencontre privée avec Obama sur le nouveau périmètre de sécurité Canada-États-Unis. Il y a de l'information qui a filtré un peu. On commence à savoir de quoi il s'agit. Évidemment, on parle de renforcement des frontières, de nouvelles mesures. Les buts qui ont été énoncés pour justifier un petit peu ce nouveau périmètre de sécurité, protéger le continent contre le terrorisme, évidemment. Traquer les bénéficiaires d'assurance emploi qui quittent le pays. Parce que normalement, quand tu es sur l'assurance emploi, tu es officiellement en recherche active 35 heures semaine, en recherche active d'emploi, donc tu n'as pas le droit, à moins de tenir permission, de quitter le pays. Donc maintenant, il va y avoir des bases de données qui vont permettre de suivre les gens qui sont bénéficiaires d'assurance emploi. On veut évidemment surveiller les demandeurs de statut, les nouveaux résidents. Les résidents permanents aussi, qui normalement, pour conserver leur résidence permanente, doivent vivre au moins 2 ans par tranche de 5 ans sur le territoire canadien. Donc maintenant, on va avoir les moyens technologiques pour pouvoir s'assurer que les résidents permanents restent sur le territoire. On va mettre sur place une base de données qui va conserver toutes les entrées, sorties, tous les déplacements de tout citoyen ou non-citoyen canadien qui passe par la frontière États-Unis-Canada. Et une grande nouveauté qui laisse un peu pantois, c'est que toutes ces informations-là vont être transmises au gouvernement américain aussi, et inversement. Donc, les deux gouvernements collaborent plus à partir de l'instauration du périmètre de sécurité. Ça va coûter 1 milliard pour la mise en place des nouvelles bébelles technologiques, des nouveaux systèmes informatiques, et 1 milliard supplémentaire pour l'entretien et la mise à jour des bases de données. Donc, un gros 2 milliards pour notre sécurité. 2 milliards, ça fait 2000 millions, c'est ça?
C'est intéressant. J'ai jamais été vraiment sûr. C'est juste trop d'argent.
Oui, c'est beaucoup d'argent. Kenny, on y vient finalement, notre cher ministre fédéral de l'immigration. Il existe un gala à Ottawa. C'est un sondage qui est mené auprès des députés de la Chambre des communes. Pour leur demander qu'est-ce qu'ils pensent de certains autres députés, de leur parti, d'autres partis. Et c'est toujours suivi d'un gala. Ça se tient annuellement. J'étais pas au courant de ça. On remet des prix lors de ce gala-là. Et Jason Kenney a été récompensé pour son ardeur au travail. Donc, on est content, n'est-ce pas? Puis, on le félicite. Kenney, je vais vous parler de Kenney pas mal. Il a annoncé plein d'affaires. Son ardeur au travail, effectivement, on peut pas la nier. C'est vrai, il travaille fort. Donc, sans prévenir qui que ce soit, sans consultation, en tout cas, ça sort un peu de nulle part. On a annoncé il y a 2 semaines un moratoire de 2 ans sur toutes les nouvelles demandes de regroupement familial dans le cadre des parrainages. Donc, on prétexte que le système est trop engorgé, donc la partie est effective maintenant. Plus de demandes pendant 2 ans de regroupement familial. Donc, si vous pensiez parrainer votre cousin, votre fils, votre grand-mère, oubliez ça. On a annoncé aussi, toujours par la bouche de Jason Kenney, la mise en place d'un système de visa biométrique. Ça rentre pas dans le 2 milliards annoncés dans le cadre du périmètre de sécurité. C'est une mesure différente. Il y aurait eu un rapport du vérificateur général canadien sur le fait que, bon, on a de la difficulté à retracer les gens, que nos mesures sécuritaires ne seraient pas assez sévères ou assez strictes. Kenny a rétorqué aux critiques exprimées dans le rapport qu'il faut aller plus loin que ce que le rapport du vérificateur général dit. Donc, de ce constat-là, il a annoncé que dès 2013, les ressortissants de pays dangereux, on n'a pas de liste encore, mais les ressortissants de pays dangereux devront fournir, dès leur demande de visa, que ce soit à la frontière ou dans leur pays d'origine, empreintes digitales et photos. Les empreintes digitales, il y aura un nouveau système électronique qui va permettre de le faire sans encre et d'être transmis directement à l'Agence des services frontaliers. Et quand les demandeurs de visa ou de statut, peu importe, arriveront au Canada, on pourra contre-vérifier si effectivement ça correspond bien aux données biométriques qu'ils ont fournies au gouvernement canadien. Donc, on avait 2 milliards annoncés pour le périmètre de sécurité. Ça, c'est une mesure qui va coûter un petit 225 millions. Donc, c'est pas... On va pas chialer pour si peu, quand même. Kenny, je vais vous le citer. Je peux pas prendre son accent parce que je me rappelle pas trop de sa voix, mais... en répondant à des questions de journalistes, il a dit, et c'est textuel, « On peut créer un formulaire pour les demandes de visa, mais si quelqu'un pose une menace, j'imagine qu'il ne se dénoncera pas dans sa demande. » Fait que... voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Kenny, encore Kenny, on l'aime beaucoup. En fait, dans le prochain dossier dont je vous parle, il n'est pas directement impliqué, ce serait plutôt des agences liées à l'immigration, qui de plus en plus, probablement sous des directives politiques, utiliseraient de plus en plus le recours au test ADN pour s'assurer de l'affiliation d'un enfant avec ses parents. C'est quelque chose qui est assez... qui était relativement rare, qui avait été mis sur pied, qui était rendu disponible pour les autorités dans les cas où on soupçonnait, par exemple, du trafic d'enfants. Donc, c'était très rarement utilisé, puis je pense que dans ce cas-là, c'était pour un motif qui était justifié. Mais maintenant, dans les cas des demandes de regroupement familial où, par exemple, un papa, une maman veut faire venir ses garçons, ses filles au Canada, on demande de plus en plus de passer des tests d'ADN. Au coût du demandeur, ça coûte à peu près 2 000 $. Et il y a eu toutes sortes de cas. Ça crée des problèmes psychologiques et familiaux parce qu'il semble qu'à date, je ne sais pas d'où vient cette donnée-là, mais 10% des résultats de tests d'ADN démontreraient que le père n'est pas le père biologique d'un enfant. Donc, on c'est drôle et pas drôle. On imagine les conséquences familiales, psychologiques. Il y a eu des conséquences plus pratiques, plus terre-à-terre, dans le sens que on veut faire venir deux enfants. Il y en a un qui, oui, est le fils biologique, l'autre non. Donc, on les sépare, tout simplement. L'autre reste seul, pas de parents, ou sous la charge d'un tuteur, mais dans son pays. Mais on sépare les enfants. Il y a eu des cas comme ça. Pas beaucoup, mais quand même. Et on imagine... la relation de couple par la suite. Bon, je sors un peu du fédéral et de Jason Kenney parce qu'à un moment donné, il faut bien en sortir. Je vais aller d'une petite brève comme ça. Il y a eu le budget municipal récemment qui a été dévoilé. C'est quelque chose qui m'avait échappé les années précédentes, mais il y a eu quand même une ventilation dans les médias assez claire de où c'est quoi les enveloppes, comment sont réparties, où va l'argent. Sur un budget de 4,7 milliards, 20% du budget est en sécurité publique. Ça inclut les pompiers, évidemment, là, mais si on enlève les pompiers, seulement pour la police, c'est 662 millions de dollars au SPVM directement. Et si on regarde les chiffres, c'est de loin l'enveloppe la plus grosse qui est donnée à tous, qui est donnée pour les différents services, les différentes institutions. Je vous donne quelques exemples. Donc, 662 millions pour le SPVM. Lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, 61 millions. Pour la culture, dans laquelle on inclut les sports, à peu près 300 millions. Société de transport de Montréal, la moitié de la police, 395 millions. Donc, ça donne aussi une idée quand même de l'ordre des choses au niveau municipal. Voilà, quelques exemples. Je passe d'un palier à l'autre, donc commencer avec le fédéral, ensuite municipal, à Québec maintenant. Dernièrement, je vous avais parlé des différents quotas d'immigration que les différents partis politiques provinciaux disaient vouloir établir pour les années à venir. Donc, le Québec reçoit à peu près en moyenne, dans les dernières années, 55 000 immigrants. Tous les partis, sauf Québec solidaire, si je me rappelle bien, tous les partis disaient qu'il fallait abaisser ces taux-là. Donc, le gouvernement libéral a tranché. Pour la prochaine année, on baisse un peu. On passe de 55 à 53 000. Tous les partis disaient la même chose. Il faut baisser. On est en train d'intégration, de francisation, etc. Mais il n'y a aucune étude, par contre, qui démontre les liens directs entre quotas, chiffres, quantité d'immigrants qu'on reçoit et intégration des immigrants. Il n'y a rien qui démontre. Il y a beaucoup d'études qui portent, par contre, sur la discrimination, sur la non-reconnaissance des certifications professionnelles. Mais sur la quantité d'immigrants reçus versus l'intégration, c'est des chiffres basés sur du vent. Il n'y a absolument rien. Abdelrazik, j'en ai parlé. Il me reste quoi? Une minute à peu près? Deux petites minutes. Donc, je voulais souligner la nouvelle chronique littéraire que vous avez. Donc, je vais m'en inspirer pour vous suggérer quelques lectures. Premièrement, des articles qui sont parus dans les journaux récemment. Un article qui parle de la relation entre la politique française, la gauche française beaucoup, et l'immigration. Paru dans Le Devoir, c'est Christian Rioux qui a écrit ça. L'article s'appelle « Quand la gauche bobo troque le peuple pour les immigrés ». Donc, il y a beaucoup de débats en France et en Europe de plus en plus sur l'immigration, sur la place publique, là, pas juste des débats d'initiés. Donc, ça brasse pas mal. L'article est très intéressant. Ça en dit beaucoup sur le climat actuel en France, dans la classe politique. Un autre article, toujours dans Le Devoir, « La révolution conservatrice de l'immigration », écrit par Marie Vastel. Donc, ces deux articles-là dont je viens de vous parler sont disponibles en entier sur Internet, qu'on soit abonné ou pas. Cet article-là résume parfaitement la loi C4 qui va être sur le point d'être mise en place bientôt, sur la loi sur les passeurs, et qui va faire très, très mal aux demandeurs de statut. Dans Le Devoir, toujours un texte inédit de Gilles Courtemanche qui s'appelle « L'Odyssée de Youssef ». Qui parle un peu, qui est une étude, c'est fictif, mais qui raconte un peu comment se passe la marche vers l'Europe pour beaucoup de Maghrébins, d'Africains, du sud du Sahara. C'est très dur, on apprend plein de choses et c'est très bien écrit, c'est Gilles Courtemanche quand même. Et dernière recommandation de lecture, c'est un roman biographique d'un Uruguayen qui s'appelle Carlos Liscano, « Le fourgon des fous ». Il raconte ses années de détention dans des prisons où il a souffert de torture, de privation de sommeil et de waterboarding. Le tout avec énormément de détails très réalistes et très troublants. Le fourgon des fous, je recommande très vivement la lecture.